On débute avec le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Joe Biden était à l'église hier, Donald Trump au golf. Le président sortant, Donald Trump, qui ne reconnaît pas sa défaite face au candidat démocrate, donné vainqueur de l'élection américaine par les médias samedi, nous irons à Wilmington, dans le Delaware.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson a félicité Joe Biden. Londres entame une nouvelle semaine de négociations sur le Brexit avec l'Union européenne. Nous verrons que dans certains cas, l'élection américaine pourrait changer la donne.
En France, les proviseurs doivent s'organiser pour faire respecter à partir d'aujourd'hui un protocole sanitaire renforcé dans les lycées avec des cours à distance. La pandémie de Covid-19 progresse et la grippe saisonnière est de retour. Des pharmacies signalent des pénuries de vaccins.
Et puis l'Afrique est le continent qui émet le moins de gaz à effet de serre, mais le changement climatique bouleverse déjà la vie des populations et cela risque de s'aggraver d'ici la fin du siècle, selon un rapport de Greenpeace.
Un rapport que nous détaillerons et après ce journal, place à la question du jour, Guillaume.
Eh bien, confinement, reconfinement, pourquoi les libraires ont-ils changé de position sur la fermeture de leur commerce? Je poserai la question à Rény Aupetit, les cofondateurs du réseau Librest, un réseau de 13 libraire du Grand Paris.
Tous les regards étaient tournés vers Joe Biden. Hier, le candidat démocrate, donné vainqueur de l'élection présidentielle américaine samedi par les médias, s'est rendu hier à la messe dans son fief de Wilmington, dans le Delaware. La messe, c'est son habitude du dimanche. Joe Biden, qui deviendra le 46e président des États-Unis, tient à rester proche des siens et de sa communauté. Sauf que cette fois, son statut a légèrement évolué. Une première journée post-résultat suivie par Claude Guibal.
Tobias, 4 ans, est dans les bras de son père. Il sort de cette petite église, Saint Joseph on the Brandywine, sous les érables et les chênes. Et parmi la cinquantaine de paroissiens ce matin, il y en a un qui l'a reconnu.
Joe Biden, the president.
Il y a quelques journalistes, mais peu nombreux. Les services secrets, discrets. Et cela rassure Leslie, qui vient ici chaque semaine.
C'était une messe normale. Monseigneur Redmond a béni l'Assemblée et Joe Biden et prié pour la paix et l'unité.
Puis voilà Joe Biden qui sort de l'église. Petit signe de main, sourire, il marche vers le petit cimetière juste derrière. Il s'incline sur la tombe de sa femme et de sa fille. Et juste à l'entrée du cimetière, il y a Michael et sa famille qui ont assisté eux aussi à la messe.
Hier soir, quand il a fait son speech, il a fait référence à un hymne catholique qu'on a chanté ici ce matin, On Eagle's Wings. And he will raise you up on eagle's wings.
Une allusion à la mort, à l'épidémie de coronavirus. Joe Biden l'a dit, ce sera sa première lutte. Pour sa première journée de président élu, il a fait le point, comme les jours précédents, avec des experts. Et il y retourne, s'engouffrant dans sa voiture, direction Barley Mill Road, juste à côté, sa belle maison dans la forêt. La voiture du shérif, désormais en barre l'accès. L'autre vie de Joe Biden vient tout juste de commencer.
Sa priorité, c'est donc la lutte contre le Covid-19. Et pour cela, il doit mettre en place aujourd'hui une cellule de crise pour élaborer un plan. Plan qui entrera en vigueur quand Joe Biden entrera, lui, à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain. Il fera ses débuts avec sa vice-présidente Kamala Harris, première femme à ce poste. Son portrait est à lire sur notre site franceculture.fr. Joe Biden a reçu de nombreux messages de félicitations, dont un de la part du Premier ministre britannique Boris Johnson. L'élection du démocrate américain peut-elle peser sur les négociations sur le Brexit? La question se pose. Londres se défend en tout cas d'avoir laissé traîner les discussions avec l'Union européenne le temps de connaître le vainqueur. Une nouvelle semaine de négociations s'ouvre aujourd'hui entre l'équipe de Michel Barnier et les Britanniques dans un climat d'incertitude et sous la pression. À Bruxelles, Angélique Bois.
Tout dépend de ce que Boris Johnson a dans la tête. Si le Premier ministre britannique a déjà décidé depuis longtemps que son pays quittera l'Union sans accord, en noyant l'impact économique dans celui de la crise du Covid, alors l'élection américaine ne changera rien, explique le président du mouvement européen Yves Bertoncini. Si en revanche il comptait sur la réélection de Trump pour défendre un no deal en promettant à son opinion l'aide de l'ami Donald pour surmonter la crise, alors en effet l'arrivée de Joe Biden n'arrange pas ses affaires. Mais de là à changer radicalement radicalement de pied, a cédé sur les lignes rouges européennes, pêche et conditions de concurrence, en échange d'un libre accès au marché commun. Personne n'en sait rien. On ne gaspille pas notre temps à tenter de comprendre la stratégie britannique, confie une source européenne proche des négociations, car le temps presse et rien n'avance. Rarement Michel Barnier ne s'est montré d'ailleurs aussi pessimiste. Il reste l'Himalaya à franchir en 10 jours, soupire l'eurodéputée Nathalie Loiseau, qui suit le dossier pour le Parlement. Mais à Bruxelles, on croit toujours qu'un accord est possible et l'élection de Joe Biden est plutôt vue comme un soutien. Londres doit aussi négocier un accord commercial avec les États-Unis et le nouveau président américain, qui affiche fièrement ses origines irlandaises, s'est dit récemment préoccupé par l'impact du Brexit sur la paix en Irlande.
Et nous reviendrons longuement sur l'élection américaine à partir de 7h40 avec les invités de Guillaume Erner. L'annonce de la victoire de Joe Biden redonne un peu d'espoir aux Biélorusses qui s'opposent au pouvoir en place dans leur pays. Plus de 300 personnes ont été arrêtées hier pendant une manifestation à Minsk. J'espère que le président des États-Unis rencontrera bientôt la présidente légitime d'une Biélorussie nouvelle et libre, a déclaré la chef de file de l'opposition réfugiée en Lituanie.
Suite du journal de Margot Delpierre à 7h06 sur France Culture.
Face aux indicateurs inquiétants de l'épidémie de Covid-19, le protocole sanitaire est renforcé à partir d'aujourd'hui dans les lycées français. Élèves, parents, professeurs avaient fait part de leur incompréhension, jugeant les mesures insuffisantes, alors que plus de 4500 malades du Covid-19 étaient hier en réanimation. Le ministre de l'Éducation avait en réponse encouragé les cours à distance, tout en conservant un minimum de 50% d'enseignement en présentiel pour chaque élève. Alors comment s'organisent les proviseurs ? Explication de Sarah Ders.
Limiter au maximum les brassages tout en allant à l'école. Si le message de Jean-Michel Blanquer est clair, le flou règne encore ce matin dans ce lycée polyvalent de l'Académie de Bordeaux dont Lisiane Gervais a la charge. La secrétaire nationale de la SNPDEN, syndicat des chefs d'établissement, attend toujours des directives précises du ministre de l'Éducation.
On est en pleine discussion entre la moitié des classes en semaine A, la moitié des classes en semaine B. Ça nous ennuie un peu là avec mes adjoints parce que ça veut dire que pendant toute une semaine, des élèves sont chez eux, peut-être seuls, puisque peut-être les parents travaillent, et donc ils risquent d'avoir des horaires complètement décalés et de ne plus être dans le rythme scolaire. Donc on a envisagé aussi peut-être de faire venir la moitié pendant 3 jours, et puis les autres, les 2 derniers jours de la semaine suivante, d'intervertir.
Les élèves du lycée Vauvenargues à Aix-en-Provence, eux, ont été informés ce week-end des changements d'emploi du temps. Leur proviseur, Philippe Vincent, choisit le système le plus avantageux pour eux afin d'éviter tout décrochage scolaire.
On a divisé les classes en deux. Un groupe viendra le lundi, le mercredi et le vendredi, et un autre groupe viendra le mardi et le jeudi, et on fera le contraire la semaine d'après. C'est le gros avantage de cette formule, c'est qu'en fait, on ne change pratiquement pas les emplois du temps. On les a un peu aménagés, en particulier pour faire en sorte que les élèves, quand on le pouvait, restent dans la même salle de classe pour éviter la multiplication des nettoyages et des désinfections.
Comme beaucoup de chefs d'établissement, ils espèrent tous deux une forme de visibilité, plus d'anticipation, pour éviter de travailler à tout prix la veille pour le lendemain.
On s'organise aussi dans les hôpitaux pour éviter l'engorgement. Les patients atteints du Covid-19 occupent, on le disait, de plus en plus de lits et il faut maintenant accueillir les malades de la grippe saisonnière. Ceci dit, la campagne de vaccination semble être un succès en France, tellement que des pharmaciens ont signalé des pénuries de vaccins, Thomas Larabie.
Après plusieurs jours à sec, Gilles Bonnefond a enfin fait le plein de vaccins anti-grippe.
Je viens de recevoir une commande, donc je suis ravi. Donc là, ça va mettre un petit ballon d'oxygène pour les 10 prochains jours.
Ce pharmacien de Montélimar, par ailleurs président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine, salue l'effort des laboratoires alors que 30% des pharmacies étaient en rupture de stock la semaine passée. Mais il salue surtout le sursaut des personnes à risque.
On avait le vaccin contre la grippe depuis de nombreuses années, gratuitement, pour la population fragile. Cette prise en charge n'est utilisée quand même pas 50%. Et donc, si la crise du Covid aura servi à retrouver le chemin de la prévention, eh bien, au moins, ça aura eu que cet effet positif. Il est petit, mais il est important.
Pour le moment, la grippe ne circule pas en France du fait des mesures d'hygiène respectées cette année par les Français. Néanmoins, ce vaccin garde une double utilité, selon Vincent Hénouf, responsable adjoint des infections respiratoires à l'Institut Pasteur.
Si vous avez arrivé chez votre médecin avec une symptomatologie respiratoire, eh bien, il y a de grandes chances que ce soit la Covid-19 et pas la grippe, puisque vous êtes vacciné. Et ainsi, le tracing et l'isolement de la personne en question sera beaucoup plus rapide et il y aura moins d'hésitation. Et puis, ces vaccins pourraient être utilisés par le personnel soignant pour avoir le maximum de personnes actives au sein de nos hôpitaux.
Et pour tenir tout l'hiver, les pharmacies comptent maintenant sur la promesse des laboratoires de produire 2 millions de doses supplémentaires par rapport à l'an passé, mais aussi sur l'État qui achète désormais auprès de ses voisins européens et des États-Unis.
Jean-Luc Mélenchon propose sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. Le chef de la France Insoumise l'a annoncé hier soir sur TF1, expliquant qu'il voulait une investiture populaire. Il ne se présentera que si et seulement si il arrive à recueillir 150 000 signatures de parrainage. Vous l'entendrez dans le journal de 7h30. Si la température augmente de 4 à 6 degrés d'ici la fin du siècle, des régions entières d'Afrique seront abandonnées par leurs habitants. Voilà en somme ce qu'on peut lire dans un rapport de Greenpeace Afrique. Il prévient de l'apparition d'une crise incontrôlable dans le continent qui émet pourtant le moins de gaz à effet de serre, Véronique Rebérotte.
Vagues de chaleur, sécheresse sans fin, cyclones, inondations, c'est le climat déréglé que subit aujourd'hui une grande partie des populations africaines. Hindou Oumarou Ibrahim est une des co-auteurs du rapport de Greenpeace Afrique. Elle est la directrice de l'association des femmes peules et peuples autochtones du Tchad.
Les saisons de pluie sont devenues de plus en plus courtes avec des violentes pluies et c'est ce qui se passe cette année exactement. Où toutes nos capitales même, on peut dire de Khartoum à Niamey, N'Djamena, tous sont sous inondation et là les gens en ville, ils utilisent des barques pour se déplacer dans les quartiers. Dans le monde rural, c'est pareil aussi, toutes les cultures sont inondées et on s'attend à une extrême saison sèche qui va impacter l'insécurité alimentaire.
Dans les régions du Sahel, les températures atteignent jusqu'à 54 degrés à l'ombre, ce qui met les populations sous tension.
Actuellement, il y a plein de populations qui se battent pour accéder à des terres fertiles ou à de l'eau juste quelque part. Et comme les ressources se réduisent de plus en plus, les communautés qui sont dans d'autres régions qui en manquent viennent là où il y a ces ressources. Et c'est ça qui crée le conflit intercommunautaire. Il y a déjà certaines régions qui ne sont pas du tout habitables. Et ça, c'est le cas de tous les pays du Sahel où il y a le manque d'eau.
Greenpeace Afrique demande aux 54 chefs d'État africains de décréter l'état d'urgence climatique.
Véronique Rebérotte. Le temps ce lundi sera plutôt gris et de la pluie est attendue cet après-midi de Cherbourg à Nantes. Météo France prévoit au maximum 11 degrés à Strasbourg, 16 à Paris, 17 à Lyon et jusqu'à 20 degrés à Ajaccio, Guillaume.
Merci beaucoup Margot Delpierre. Dans quelques instants, confinement, reconfinement, pourquoi les libraires ont-ils changé de position sur la fermeture de leur commerce? 7h13.